Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up Fastlane Review, notre chronique habituelle des pay-per-view. Donc on les fait tous, même les bichots. Comme Fastlane, vous allez voir, on n'avait pas été très enthousiasmé, mais bref, je suis accompagné aujourd'hui par le fidèle amiral Armbar.
Salut Hank, salut tout le monde.
Voilà, et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait passer de match en match, donner surtout notre avis, hein. On va pas vraiment donner de description des matchs, de toute façon si vous nous écoutez généralement c'est que vous l'avez déjà vu, donc voilà, le premier match donc de kick-off que nous n'avons pas vu mais je vais quand même vous donner le résultat, donc c'était Rich Swann et Akira Tozawa contre Brian Kendrick et Noam Dar. C'est Rich Swann et Akira Tozawa qui ont gagné. Donc voilà, c'était une victoire, je crois, de Rich Swann, un tombé de Rich Swann sur. Attendez.
Dans tous les cas, on l'avait prédit. On avait dit que c'était les Faces qui gagneraient.
On avait prédit que c'était les Faces, voilà. Donc voilà. Passons au vrai show. Le vrai show qui a commencé par Sami Zayn contre Samoa Joe. Donc voilà, un match finalement à un seul sens, hein, un match où Sami Zayn s'est fait littéralement détruire, et puis malgré une petite tentative de LEV kick vers la fin, Joe le contre et slam Zayn par terre, et puis il le met dans la coquina clutch. Et puis là, Sami Zayn, il nous fait sa partition préférée, c'est-à-dire je tombe dans les pommes. donc l'arbitre qui voit ça, qui demande à Zayn comment ça va, ça va bien, t'es en forme et tout. Sami Zayn il répond pas, il est à moitié en train de s'évanouir. Et donc l'arbitre arrête le match, victoire de Samoa Joe. Donc on peut en parler de ça, un match quand même assez court, hein. Je pense qu'il a dû durer 5-6 minutes.
Ouais, c'est clair.
Bon, t'as pensé quoi de ce match?
Bah, on attendait ce match, l'affrontement entre les deux fait saliver. Là, on va dire que c'était un premier match en main roster des deux, donc ils ont gardé plein de choses encore en réserve pour peut-être, je l'espère du moins, un nouvel affrontement. C'est clair que c'était un peu décevant, un peu court, hein. Moi, j'avais beaucoup d'espoir pour ce match, je pensais que ça pouvait être le show stealer de la soirée, ça n'a pas été le cas. Pas qu'ils sont pas capables, mais ouais, ils ont eu pas longtemps, hein. Donc du coup, comme tu l'as dit, match un peu à sens unique. Samoa Joe a vraiment dominé de bout en bout. Sami Zayn, voilà, un peu la victime, espèce de poupée désarticulée qui se fait malmener dans tous les sens. C'était pas dégueulasse, mais un peu frustré de la rapidité, hein. Vraiment Fastlane, là, ouais, effectivement, c'était très rapide, trop rapide peut-être.
D'accord. Oui, moi j'ai pas vraiment. Je pense qu'ils auraient pu faire, plus que ça avec ce match, et finalement ils ont juste respecté la logique de Monday Night Raw depuis des semaines, c'est-à-dire que Samoa Joe détruit ses opposants à chaque fois de façon très heel, quoi. Je pense qu'il a les finishes de match les plus heel de toute la compagnie, parce que on le verra dans notre review de Monday Night Raw dans une vidéo séparée, regardez sur la chaîne. Donc il continue avec ses finishes de match qui sont pour le coup là c'est marrant parce que c'est un finish finalement clean, mais qui est quand même très heal, ce qu'il fait tomber dans les pommes. Mais voilà, bon, c'était pas ça va pas vous réveiller la nuit, quoi, ce match. Vous vous en souviendrez pas dans quelques mois.
Non, c'est clair. Après, voilà, en début de show, pourquoi pas. Voilà, un peu court, un peu short, mais c'était pas.
Alors,
c'était pas
mauvais. On s'attendait. Le truc, c'est qu'on s'attendait quand même au show stealer un petit peu, et ils leur ont pas laissé la place parce que il y avait besoin de caser des moments inoubliables avec des matchs imprévus au milieu du show. Mais on va en parler un peu plus tard. On a eu aussi donc Sasha Banks contre Nia Jax. Donc un match forcément avec une grosse domination de Nia Jax, mais vers la fin, Sasha Banks réussit quand même à s'en sortir avec une petite filouterie où elle place Nia Jax, enfin elle coince Nia Jax dans un roll-up. Alors par contre, la séquence est assez drôle à regarder parce que d'ailleurs j'ai un peu fait la confusion entre ça et un penchant heel chez Sasha Banks parce que elle a mal calculé son roll-up et en fait elle s'est retrouvée les deux pieds sur les cordes quand elle faisait son espèce de roll-up. Donc du coup ça ressemblait quand même à la vieille technique de le truc qui sert à rien. C'est marrant parce que quand on y réfléchit ça sert vraiment à rien d'avoir les pieds sur les cordes pour faire un tombé, mais donc voilà, elle s'est merdée, elle s'est pris littéralement les pieds dans les cordes.
Les cordes, ouais, c'est ça.
Et donc voilà, victoire de Sasha Banks. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que
un match un peu similaire finalement au Zenjo où on avait un peu la même partition, c'était un peu un scénario de David contre Goliath, de Nia Jax dans le rôle de la dominante, elle a vraiment maîtrisé le match. J'aurais aimé plus de combativité, plus de réactivité de la part de Banks. Il y a vraiment que sur la fin où vraiment on a l'impression qu'elle gagne pas par hasard, mais genre dans une seconde d'inattention de Nia Jax, hop, elle fait son roll-up un peu foiré sur les cordes comme tu dis. Et elle gagne. Moi, j'étais parti sur la victoire de Nia Jax. Donc là, de voir que Banks gagne, j'étais un peu surpris. Mais en même temps, ça permet de rééquilibrer un peu les scores. Parce que pour l'instant, c'est Nia Jax qui dominait Banks. Donc, il fallait peut-être une victoire pour la boss afin de rééquilibrer les choses. Mais c'était pas forcément mérité, quoi. C'est vraiment, on a l'impression, un coup de bol, en fait. Hein. Et le match avait un rythme un peu... Enfin, un faux rythme un peu mou. Toujours difficile à booker, hein, ces affrontements-là avec des différences de poids. Mais c'était pas sans sas, hein. J'ai pas trippé alors que les deux dans le ring sont capables de donner des trucs plus intéressants. Donc est-ce que là aussi ils ont souffert d'un manque de temps ou de préparation, je sais pas, mais c'était pas excitant, hein.
Je trouve pas la chimie entre les deux vraiment fantastique, hein. C'est de mes souvenirs du match, j'avais l'impression que Sasha Banks avait pas vraiment, je sais pas si c'était un problème chez Nia Jax ou Sasha Banks, mais il y avait pas vraiment d'impact dans ce qu'elle faisait, et donc du coup en fait ça sonnait faux. Dès que c'était à Sasha Banks d'attaquer, en fait ça sonnait assez faux.
Ouais.
Donc voilà. De toute façon, on sait que Nia Jax a déjà, enfin, ça va pas empêcher Nia Jax d'être dans la carte de WrestleMania, à mon avis.
Non. Par contre, elle a bien gagné. Point positif du match, je trouve Nia Jax en trash talk durant le match. Elle a été vachement active, à haranguer le public ou à bâcher Sasha Banks verbalement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'elle faisait un petit peu, mais pas trop. Là, elle est passée à vitesse supérieure, donc petite prise de confiance agréable de Nia Jax, à son répertoire de heel dans le ring quand elle domine vraiment son adversaire. Elle meuble bien le temps de récupération, donc ça, c'est plutôt cool. Mais le match, elle s'ennuie. Moi, j'ai regardé une partie de Fastlane au début avec ma copine, la pauvre, et effectivement, elle a dit, ouais, le match entre les deux, il est chiant.
C'était le mauvais pay-per-view à lui montrer, hein, c'est dommage.
Ouais, la première heure, c'était...
on a eu le match tag team pour les ceintures, Luke Gallows et Karl Anderson contre Enzo and Cass. La partition habituelle, hein, de Enzo and Cass, Enzo qui se fait massacrer pendant les trois quarts du match, et du coup Cass qui arrive un peu pour sauver le truc, mais cette fois-ci en fait il y a eu une petite filouterie du club. J'essaie de la retrouver. Est-ce que tu t'en souviens?
Ouais. Il y a Cass et Gallows qui sont en train de se taper au niveau du ring. Il y a Anderson qui fait un coup de genou dans la gueule d'Enzo. Il le couvre et en fait il y a Enzo qui a son pied sur la corde, la troisième corde.
Ah voilà. Donc,
du coup, il devrait arrêter le compte, mais il y a Gallows qui arrive, qui enlève le pied.
Ah oui, d'Enzo, voilà, c'est ça.
Et donc là, il enlève ça. Pied. Voilà. Donc la filouterie, effectivement, normalement le compte aurait dû être interrompu puisqu'il y avait le pied d'Enzo, mais Gallows a remis le pied d'Enzo dans le le ring. Et voilà, donc petite filouterie, effectivement, mais l'arbitre a rien vu, hein, pas vu, pas pris.
Voilà. Donc le club toujours champion. Mon prono était mauvais.
Ouais, quel champion. Ouais, bon. Là-dessus, comme tu l'as dit, ultra classique, Enzo et Cass, j'ai l'impression qu'on n'a rien vu de neuf de leur part depuis qu'ils sont arrivés au main roster. C'est un peu triste. Ouais. Du coup, rien de neuf ou d'excitant non plus du côté du club. Là, ces affrontements à deux vitesses où il n'y a qu'un seul des deux mecs, donc Cass qui est un peu capable dans le ring, ça met pas en valeur non plus leurs adversaires, donc les champions. Voilà, ils ont gagné par une filouterie parce que bah ils sont heel, donc ils peuvent pas gagner cleanement, contrairement à Joe. Ouais. Faut qu'ils trichent. C'est un peu dommage
Et en plus, c'est con parce que c'est deux mecs capables contre un mec capable et un gamin qui est en train de courir partout. Enfin, Enzo, ce que j'avais sorti sur Twitter, parce que j'ai live tweeté ce pay-per-view.
C'est vrai.
J'avais dit j'ai exagéré, j'ai dit après une dizaine de matchs, une dizaine de rencontres, le club est toujours convaincu qu'il faut s'attaquer au mec d'un mètre vingt, mais pas au mec de 2m10. Il faut se concentrer sur le mec d'un mètre vingt. Du coup, c'est ça à chaque match, en fait. Il se fatigue sur le mec d'un mètre vingt, et puis après, il y a le géant qui arrive. Ah, mince, on l'a encore oublié, celui-là.
Et d'ailleurs, ma copine a remarqué un truc rigolo, comme quoi les gens qui ratent pas beaucoup de catch font pas attention aux mêmes choses. Mais pendant qu'Enzo se fait tabasser dans le ring pendant la majeure partie du match par le club, il y a Cass qui est au bord du ring, et Cass, en fait, il fait une petite danse. Il tient les cordes comme ça, il ondule de gauche à droite et c'est putain de ridicule. Après, elle me l'a fait remarquer, j'ai fait gaffe et c'est vraiment à mourir de rire. Donc, regardez la prochaine fois
Cass. Mais c'est John Cena, il fait pareil aussi.
Ouais, voilà, mais là c'est Cass quoi, donc c'est encore plus bizarre.
Mais il a pris le rulebook du face. Genre quand t'es en tag team, t'es sur le côté, des moments tu lances un peu genre encouragement avec le poing comme ça, genre allez, et puis quand tu sens que le tag doit arriver, tu fais. Enfin bref.
Donc voir un mec de 2 mètres faire ça sur le bord du ring en slip, c'est un peu ridicule effectivement. Donc voilà. Mais à part ça, rien de neuf dans leur répertoire. Ça, c'est,
donc voilà. Encore un match finalement qu'on aurait pu voir en Monday Night Raw. Hein.
Bah c'est ça. Toute la première heure, les trois matchs qu'on vient de parler, ils auraient pu être en Monday Night Raw, ça aurait pas choqué. Mais là en pay-per-view, c'est chiant.
On va parler d'un match qui, lui, n'aurait sûrement pas eu lieu à un Monday Night Raw. C'est Adrian Neville contre Jack Gallagher. Oh mon Dieu, la lumière cruiser. La superbe lumière qui vous donne un mauvais teint à tout moment de la journée. Donc ouais, Neville contre Gallagher, et bah s'il y a un match que vous devez voir de Fastlane, si vous avez pas envie de vous farcir Fastlane et que vous avez lu que tout le monde, enfin grosse partie des médias catch n'ont pas aimé ce pay-per-view, c'est le match à voir. C'était il y avait de l'humour au début parce que voilà, Gallagher a fait c'est son petit sketch, la chandelle sur le poteau, en mode équilibriste, et puis dès que Neville essaie d'avancer, il baisse le pied en bouclier, enfin bref. Il y avait cette petite partie humour, et après, à moitié du match, c'est devenu de la violence. C'est devenu du coup de tête, il y a eu du headbutt en veux-tu en voilà. Donc des échanges de coups vraiment sympa, et puis finalement en fait c'est Neville qui a la victoire avec là, j'ai j'ai une musique qui démarre sur mon PC avec le Red Arrow.
Ouais.
Et oui, il a fait son Red Arrow qu'il avait arrêté de faire depuis qu'il était heel, en fait, je crois. Donc voilà, pour un peu montrer finalement, je pense que son adversaire, il demandait de sortir l'ultime finisher. Mm-hmm. Un beau match, vraiment sympathique. Enfin, vraiment sympathique, juste même un très bon match. Et finalement, le premier... quand j'ai réfléchi, c'est le premier vraiment très bon match que j'ai vu des cruisers en pay-per-view.
Bah déjà c'est le premier vraiment bon match du pay-per-view de Fastlane.
Aussi.
Et ouais, c'est vrai que là on avait l'affrontement marché entre les deux, ce qui n'était pas forcément gagné parce que Gallagher était un peu guignol jusqu'à présent et Neville est vraiment impitoyable depuis qu'il est revenu en heel, en ce roi des cruiserweights. Et ça a marché, ça a vraiment très très bien marché. Neville sur la fin du match, il balance Gallagher dans les cordes et le rattrape juste derrière pour effectivement une souplex qui était ultra violente.
Oui. C'était j'en ai parlé.
Un spot de malade. Hallucinant. Et derrière son Red Arrow, donc finish impitoyable, l'enchaînement des deux, et ok, c'est normal qu'il se relève pas de ça. Donc ça met finalement, comme tu dis, bien over Galler, dans le sens ok, le Red Arrow il faut que j'utilise pour le battre ce mec. Et c'était impressionnant quoi, l'exécution était super rapide, super fluide, rien à dire quoi. Et puis il y avait des moments vraiment impactants au niveau des coups, comme tu dis, coup de boule, Neville qui fait ses kicks par série 3 ou 4 où t'avais bien mal pour le Gentleman Jack. Donc ouais, c'était ils ont montré de la voltige, ils ont montré du côté violent, un peu de psychologie et d'humour au début. Ouais, c'était un match assez complet. En peu de temps, ils ont réussi à faire pas mal de choses et c'était super appréciable. Et surprenant. Ouais. Surprenant pour le coup, on n'attendait pas ça et
ouais, j'avais parlé. Je vais pas vous récapituler tous les tweets que j'ai sortis pendant le pay-per-view, mais j'avais parlé pendant le pay-per-view. J'avais sorti au moment de cette souplex où Gallagher tombe vraiment sur la nuque, quoi. J'avais tentative d'homicide de Neville. Parce que là s'il voulait pas lui fracasser le crâne, il était pas loin. Donc voilà. Ce très bon match qui a été suivi les New Day qui sont venus vendre leur crème glacée. Je crois que c'était ça. On va vraiment en parler quoi.
Non, ça servait à rien. Ils sont arrivés 2 minutes et voilà.
En parlant de segments qui servent à rien, on a eu Jinder Mahal et Rusev qui arrivent au centre du ring. Et puis, je sais pas pourquoi ils se chamaillent ou un truc comme ça. Je crois que c'est dès le début ils se chamaillent.
Ouais, dans le kick-off, ils s'engueulaient dans le bureau de Mick Foley. Et parce que les deux, suite à ce qui s'est passé à Raw la semaine dernière, ils disaient oui, je veux être en compétition simple, en solo. Et Mick Foley, il fait ok, j'ai une idée pour vous les gars, on a qu'à faire un Best of Seven Series. LOL, en rappel à ce qu'il a fait Cesaro et Sheamus, bien sûr les deux veulent pas et donc du coup ils exigent des matchs en simple pour pendant le show, ce qui nous met dans une situation fabuleuse.
Donc Jinder Mahal qui est contre Cesaro. Voilà, c'est un match qui dure vraiment pas longtemps. Cesaro gagne. Quand je vous dis pas longtemps, c'est vraiment genre 1 minute 30 quoi. Et ensuite on a Rusev. Et Jinder Mahal du coup il est éliminé parce que à un moment il regarde Rusev et j'avais noté c'est Rusev qui élimine Jinder Mahal par son simple regard quoi. C'est juste à un moment il est vénère.
Masca.
Et donc voilà, il est inattention de Jinder Mahal parce qu'il y a besoin de ça hein, sinon Cesaro il l'aurait pas gagné.
Non. Au pire il a été distrait Jinder Mahal par les espèces de bottes argentées horribles de Lana. C'était un mauvais cosplay de Sankuka. Man, c'était atroce, je pas compris.
Bref. Mais le meilleur moment, c'est quand même juste après quand Rusev va dans le ring, attend son adversaire, et puis c'est le Big Chauve, et il est de retour, il est en forme, hein, on n'arrête pas de le répéter semaine après semaine. Mais donc voilà, le Big Show, il arrive et puis il extermine Rusev. Hein. Il le maltraite. Il lui fout du slam méchant et puis voilà, il l'élimine comme un vulgaire jobber au bout de 2 minutes.
Ouais, il lui met deux chocs slam et après Rusev est capoute, hein, à ce moment-là il se relève pas et Big Show le met plus ou moins assis par terre dans le coin et il lui fait une espèce de knockout punch un peu minable alors que Rusev est quasiment au sol avant de lui faire le tomber. Donc certains spéculent, est-ce que c'est un heel turn raté du Big Show parce que c'est vrai qu'il aurait pu coucher Rusev après le premier choc slam, voire après le second. Il lui remet un knuckle punch, on sait pas trop.
Faut réfléchir, c'est trop.
Ouais, c'est incompréhensible.
Autant, Autant moi, je le dis souvent que je réfléchis trop sur le booking, etc. Mais là, non, mais vous réfléchissez trop. C'est juste, Rousseff, ça restera un heel toute sa vie. Enfin, je suis presque persuadé.
Je sais pas, parce que s'il
est face, à mon avis, ça va juste pas marcher. Ils vont faire ça pendant 3 mois.
Il a changé de coupe de cheveux. Il s'est coupé les cheveux. Maintenant, c'est cheveux courts, net, propre, c'est face. Non, mais sans rire. C'est plus par rapport au Big Show, son booking à Mania. On murmure toujours le match contre Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, ce serait la star hors de WWE qui viendrait y catcher. Il serait forcément face. Je pense pas que la WWE mettrait un ex-champion de basket dans un match qui n'est pas un catcheur en tant que heel. Il mettrait en tant que face. Donc, forcément, logique WWE oblige, son adversaire doit être heel, donc c'est peut-être pour ça que le Big Show...
Ouais, et c'est pour ça qu'on le fait massacrer un autre heel.
Ouais, c'est débile, hein, on est d'accord, hein, dans tous les cas, c'était incompréhensible et c'était mal fichu, au mieux, quoi. Au mieux, c'était mal foutu. Mais un peu bizarre ce finish de match, hein. En tout cas, pas très intéressant non plus. Un match, c'est encore une fois, de weekly, mais pas pay-per-view.
Ouais, et puis moi ça m'a un peu désespéré pour le pauvre Rousseff, quoi. S'il sert de serpillière à Big Show qui du coup avant que ça parte sur Roman Reigns avait une feud avec Strowman qui aurait pu donner quelque chose. Je sais, moi je disais, ils avaient une bonne alchimie, en tout cas, les deux.
C'était couru d'avance que Big Show, c'était juste un apéritif de Strowman sur son chemin pour son build-up jusqu'au match du soir contre Roman Reigns, c'est tout. Mais, il s'est fait Mark Henry comme ça, il s'est fait Big Show. Mais je voyais pas les deux faire une feud plus longue qu'un match d'un soir. Alors là...
Alors parlons justement de Roman Reigns contre Strowman. C'était un match aussi assez violent, hein, normal avec les avec les deux hommes. C'est Strowman qui est passé à travers la table.
Non, c'est Strowman prend Reigns dans un power slam. Il fait passer Reigns à travers la table. Donc c'est les deux.
Oui,
qui
non, c'est Reigns. D'accord. Ouais. Donc voilà. Bref, ça se fonce dessus. Il y a beaucoup de gros coups. J'ai pas le match en tête, surtout parce que le finish a un peu effacé ma mémoire, je pense.
Ouais, bah ils ont déroulé leur arsenal, ils ont beaucoup fait de trucs en dehors du ring. Donc t'avais Strowman qui re-rentrait dans le ring pour briser le compte, hein, règlement de l'arbitre, jusqu'à faire passer Reigns dans travers une table. Voilà, donc il y a le public qui était derrière, hein, qui disait merci Strowman, mais ça n'a pas empêché le finish. Voilà.
Ouais. Et le finish, et bah, c'est juste Roman Reigns qui réussit à pourfendre Strowman avec
Spear.
Mais oui, un Spear. J'hésitais entre Superman Punch et Spear. De toute façon, c'est l'un des deux. Et donc voilà, victoire clean de Roman Reigns.
Oui.
Pas d'histoire d'Undertaker qui arrive pour distraire ou pour faire quoi que ce soit.
Non. Non, là c'est vraiment la streak d'invincibilité Strowman qui n'avait jamais été soumis ou battu clean par qui que ce soit de WWE qui prend fin. Voilà, de façon indiscutable, hein. Reigns est passé à travers une table, Reigns s'est pris des power slams dans tous les sens, il s'est fait massacrer, etc. Mais voilà, le big dog, le gros chien est vraiment trop gros. Même pour le monstre parmi les hommes, ça ne suffit pas. Donc voilà, évidemment, déçu de voir une invincibilité prendre fin. Elle avait été construite de longue haleine. On s'est tapé plein de jobbers de tous les coins des États-Unis pour finalement en faire le nouveau goûter, le nouveau casse-croûte de Roman Reigns. Un peu déçu, forcément. Un peu déçu. À voir après comment Strowman va rebondir de tout ça. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ils auraient pu conserver Strowman un peu plus et en même temps faire looker Strong Reigns quand même, quoi. Les deux t'es pas incompatibles, selon moi.
J'ai pas de souci avec le fait que Reigns gagne parce que de toute façon on savait que Reigns allait avoir une grosse affiche à Mania. Donc forcément que Reigns doit gagner. Mais là j'ai trop eu l'impression que finalement, enfin, on a Depuis des semaines, on nous montre que Strowman peut défoncer Roman Reigns à n'importe quel moment, le foutre à terre au bout de 1 minute 30, 2 minutes d'échange. Et là, c'est encore une victoire, enfin une victoire clean, une victoire qui a pas de, qui a, ouais voilà, qui laisse pas la porte ouverte à quoi que ce soit.
Non, le seul truc c'est que à un moment donné, Strowman vend pendant le match une petite blessure au genou, à la jambe. À un moment donné, ouais. Il est là, il regarde son genou. Locatique. Voilà, donc c'est peut-être pour dire il n'était pas dans ses moyens les plus complets, il s'était fait un peu mal. Peut-être que sans ça, il aurait battu Reigns, on ne sait pas. Mais c'est anecdotique, vraiment anecdotique quoi.
Mm-hmm. Donc voilà pour ce match qui quand même ressemblait à leurs autres rencontres. Enfin, je veux dire qui il y avait rien de fantastique dans ce match ou de vraiment particulier à part justement cette victoire de Roman Reigns. Mais si vous avez déjà vu les deux en face à face, ça ressemblait à ça. Donc voilà, et ensuite et ben nous avions où est ma carte, j'ai perdu ma carte, nous avions bah de toute façon Goldberg
non,
ah oui non on avait
Charlotte,
on avait
Bailey.
Ah oui, on avait Charlotte Bailey, mais oui, oh je suis pas content. Donc ouais, Charlotte Bailey, c'était un match potable. Mais avec quand même un énorme botch de Bailey à un moment où elle doit faire un tombé du coude sur Charlotte qui était accrochée au poteau, et elle fait le tombé du coude à environ 1 mètre de la tête de Charlotte.
Ouais, elle s'est prend deux fois en plus, hein. Elle essaie une première
aveugle.
Fois, elle court vers les cordes pour prendre appui sur la première corde et sauter, faire ce tombé de coude. Elle s'y prend mal, elle revient en arrière, elle refait sa course, et même la deuxième fois, elle le botch effectivement à 1 mètre. Donc double botch pour Bailey à ce niveau-là, c'était... Bon, elle s'est pas démontée. Elle a eu le sourire, elle a fait « Ok, bon, allez, on s'en fout. » Donc elle a bien réagi, elle s'est pas laissée miner par ça, mais c'est vrai que c'était un peu strange.
Et donc voilà, une bonne offense aussi de Charlotte, Natural Selection et tout ça, quoi. Mais il y a eu Sasha Banks, forcément. Sasha Banks est arrivé vers la fin pour faire une petite distraction. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Bailey gagne en surprenant Charlotte avec un Bailey to Bailey.
Ouais, un Bailey to Bailey, tout à fait. Hein. Alors savoir que du coup, effectivement, Banks arrive, ça fait une distraction. Alors Charlotte menait, à mon nez, Charlotte fait le tombé sur Bailey, mais Sasha Banks dit à l'arbitre et regardez, Charlotte, elle tient le fut, elle tient le pantalon de Bailey, elle a pas le droit. Donc là, l'arbitre, il interrompt son con, il fait hey, lâche son futal de suite. Et donc Charlotte qui est vénère, et là elle se fait surprendre par un Bailey to Bailey. Donc intervention ouais. un peu moche parce qu'il n'y avait pas nécessité, il n'y avait pas Dana Brooke qui était dans le coin.
Oui, en plus, ce que j'ai pas raconté, c'est que juste avant le match, en fait, Charlotte arrive avec Dana Brooke et elle se retourne et elle dit à Dana Brooke, casse-toi, rentre chez toi, j'ai pas besoin de toi.
Ouais, exactement. Donc, elle la joue clean. En plus, quand Banks arrive, eh ben, elle se frite en dehors du ring avec Charlotte.
Mm-hmm.
Donc là, pourquoi il n'y a pas une disqualification, un truc comme ça là, enfin, je...
Et l'autre truc, c'est que ce moment où Charlotte renvoie Dana Brooke, en fait, il est lié à une interview de Bailey qui a eu lieu quelques minutes avant, où Bailey, est-ce que c'était, oui, si c'était quelques minutes, Bailey disait si Charlotte veut vraiment prouver que c'est la meilleure, et ben bah, qu'elle vienne pas avec sa petite protégée Dana Brooke. Donc Charlotte arrive, elle a une attitude du coup respectueuse ou au moins honorable demander à Dana Brooke de s'en aller. Donc du coup et à la fin, donc non seulement il y a ça, mais à la fin Bailey gagne sur la l'intervention, enfin grâce à l'intervention de Banks, et le match se finit avec Charlotte en pleurs et Bailey toute sourire. Et du coup, je me suis dit, si on est logique, demain, Charlotte, elle est face. Parce qu'elle s'est fait, elle s'est fait avoir. Enfin, elle a tenté de respecter les règles, elle s'est fait avoir. Et puis, Bailey, elle en a rien à faire de cette intervention. Enfin, du moins, pour l'instant.
Ouais, elle montre aucun signe d'énervement, elle montre pas, genre, mec, tant, Sacha, qu'est-ce que tu fais là? Non, rien, c'est, elle est contente, elle a gagné. Et là, voilà, surtout, c'est la streak, là aussi, hein, la série de victoires en pay-per-view, ça faisait 16 pay-per-view d'affilée, dans les matchs en simple pour le titre que Charlotte était invaincue. Et je suis super vénère que cette série de victoires soit brisée, dans un pay-per-view comme Fastlane. À Mania ou un truc qui compte, pourquoi pas, mais là, Fastlane. Franchement, les boules, surtout avec cette intervention-là. Voilà, qui a, je sais pas, un truc, une disqualif, enfin, quoi que ce soit, mais pas qu'elle perde.
Il y avait pas besoin.
Trois,
oui.
Quoi. Là, c'est.
Il y avait pas besoin dans ce match. C'est ça qui m'a tellement énervé. Il y avait tellement pas besoin de faire perdre Charlotte. Il suffisait de faire gagner Bailey avec. Une intervention de Dana Brooke ou une connerie du genre.
Même quand Sasha Banks débarque, elle commence à se taper dessus avec Charlotte en dehors du ring, l'arbitre disqualifie Bailey parce qu'il y a intervention. Donc Charlotte gagne par disqualification. Bailey garde la ceinture, hein, avantage du champion, mais Charlotte a une victoire. Et comme ça, la streak de Charlotte continue. Mais la ceinture reste au niveau de Bailey et on gardait cette streak et on était un peu haletant au niveau de Mania et là.
C'est peut-être aussi la logique WWE qui se dit on fera jamais. Enfin, j'ai pas en tête les exemples de face qui gagnent par disqualification. C'est peut-être aussi ça en fait. C'est peut-être le fait qu'ils veulent pas que quelqu'un de face gagne par disqualification. Parce que ça serait, c'est une fausse victoire. Enfin, c'est le genre, c'est l'attitude des heels, quoi. Ouais, la victoire par disqualification.
Mais là, si ça avait été le cas, elle y était pour rien. Bailey, elle avait pas demandé à Sasha Banks de l'aider. C'est Sasha Banks qui prend sur elle de l'aider et de s'immiscer dans les affaires de Bailey. Et justement, c'était pas mal. Ça pouvait faire un peu monter une rivalité, une légère distension entre Sasha Banks et Bailey. Genre, maintenant, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Reste en dehors de mes matchs, donc c'est pas grave, ça n'aurait pas entaché l'aura de Bailey qui, elle, est restée clean dans son attitude.
Donc, et pourquoi pas, alors là j'ai une idée de fou, pourquoi pas faire gagner Charlotte après une intervention ratée de Sasha Banks, et du coup là on monte le truc de Bailey et Sasha Banks qui lui dit oui mais de toute façon t'arrives jamais à gagner toute seule, etc. Et du coup on fait monter ça, on peut aussi faire monter ça jusqu'à Mania et faire un Fatal 4-Way ou un truc comme ça avec Nia Jax.
Enfin, il y a plein de moyens de monter ce match.
Voilà, il y avait au moins deux ou trois solutions beaucoup plus beaucoup plus intelligente que ce qu'ils ont fait.
C'est clair.
Donc, c'est dommage. Et du coup, là, on arrive au main event, à moins que j'ai oublié un match.
Oh, c'est bon.
Et ben, le main event, c'est bien entendu Kevin Owens contre Goldberg. Kevin Owens, Goldberg arrive en entrée et tout ça. Et puis, Kevin Owens aussi, donc, du coup, il suit. Et puis Kevin Owens, dès le début du match, en fait, enfin même pas le début du match parce que la cloche t'a pas sonné, ils sont en face à face, bon, il fait un peu le malin, tout ça, et puis juste au moment où... non, c'est même pas juste au moment où la cloche sonne, c'est même avant que la cloche sonne, en fait, il se tire du ring, et puis il se balade un petit peu comme ça, en se disant « Attends, je suis pas prêt tout de suite, je réfléchis, tout ça ». Bon, les commentateurs disent « Ah, c'est du mind game, machin et tout. »
Ouais, c'est
mais on se fait quand même
aussi,
chier. On se fait quand même un petit peu chier pendant ces deux minutes. Je sais pas si c'est parce que quand je l'ai regardé, il était 5h30 du matin, mais...
Je pense que c'est ça. Moi, je l'ai regardé à tête plus reposée en début de soirée, le lendemain. Et non, je trouvais le mind game, entre guillemets, Owens qui joue la montre, qui tourne autour, etc. Je trouvais ça pas chiant, quoi. Ça allait avec le côté, ok, il sait qu'il est un peu en désavantage, donc il essaie de jouer la carte psychologique.
Mais ce que ça m'a surtout dit, c'était, enfin, à ce moment-là, si vous êtes habitué à voir le catch, et surtout si vous avez vu les derniers matchs de Goldberg, ça vous a directement indiqué ce qui allait se passer. Et donc, Kevin Owens monte quand même, finalement. La cloche sonne, et là, Break the World Down! Jericho arrive, tout habillé. Je sais plus ce qu'il a ce qu'il avait comme habit, mais c'est très simple et c'était très. On voit que maintenant il est face. Hein. Il est plus habillé avec des trucs complètement extravagants.
Il a une petite veste avec plein de strass, de miroirs, de machin. Il a quand même une veste shiny, pas avec des LED. C'est pas un arbre de Noël, mais il est quand même. Il a un style un peu à la Jericho, quoi, qu'on l'a vu.
Mais donc il arrive avec son grand sourire, forcément Kevin Owens, tel un chien à qui on montre un nonos, il fait ah et là Goldberg, il place son spear, Jackhammer aussi je crois après, et puis spear Jackhammer, victoire de Goldberg en 25 secondes, un truc comme ça. Donc voilà. Chacun son appréciation.
Ouais, ils étaient pas mal à le dire dans les pronos. Ringside, dans notre vidéo prono, le disait. Pour lui, c'est comme ça que le match se passerait. Du moins, Spear, Jackhammer, 1, 2, 3. Comme moi, on disait non, ils vont pas faire ça. C'est bon, ils ont fait le coup avec Brock Lesnar. Ils vont pas le refaire là pour la ceinture universelle. Si, et même en mettant là... surprise, intervention de Jericho, encore une fois, c'est chiant, une musique d'un mec retenti, et les gars font « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne regarde plus ce qui se passe juste ici, à côté de moi, dans le ring, vas-y, mets-moi tes coups spéciaux et finis-moi en deux secondes. »
Fais-moi un spear à un mètre de distance.
C'est ridicule, même si je suis bien d'accord que, vu le gabarit, Goldberg est toujours ultra impressionnant physiquement, de carrure. Un spear de ce gars-là, tu dis « Ok, ça peut sécher n'importe qui, même un beau bébé comme Kevin Owens. » Mais voilà, la diversion, elle est pas crédible, juste la musique, etc. C'est classique. Alors oui, on peut dire, ok, c'est normal, ça marche, c'est les lois magiques du catch, mais ça fait un peu mal au cul quand c'est un heel qui est habitué à divertir les gens, tu vois, à utiliser des techniques comme ça, que lui aussi se fasse avoir aussi connement. Ouais. Merde.
Il y a deux camps là-dessus. On est minoritaire au Cashup, je pense, dans la team Cashup. Il y a deux camps. Il y a les gens qui disent c'est très bien parce que de toute façon, non seulement il y a l'effet de surprise. Alors les gens, ils disent si les gens sont contents, les gens ils veulent voir Goldberg gagner. Ils s'en foutent que ça dure 30 secondes ou que ça dure 2 minutes. Mais donc voilà, le camp qui dit de toute façon Goldberg il peut pas catcher pendant 5 minutes, donc voilà, c'est logique, etc. Et j'ai l'impression que c'est une façon de réfléchir à l'envers, en fait. C'est vraiment ça, genre oui, alors donc du coup il a pas la capacité de catcher, donc du coup c'est normal. S'il a pas la, alors déjà si on prend la logique de base, s'il a pas la capacité de catcher, il devrait pas être là. Le deuxième truc, c'est comment. S'il est limité à ça, j'espère on s'en arrêtera à WrestleMania, quoi. Mais moi ça m'intéresse pas, je suis désolé, je suis pas de l'époque de Goldberg, etc. J'ai pas un attachement énorme à ce type là, même si je respecte, et puis j'ai bien aimé son retour. Après bon, les Raw après il a été moins bon, mais son retour était plutôt bon. Mais moi j'en ai un peu ma claque des main events qui durent 30 secondes. Je trouve ça, je sais pas, je comprends les gens qui sont nostalgiques, etc. Mais vous vous rendez compte que il y a des gens qui payent, alors nous on paye pas, mais il y a des gens qui payent des places à 500 boules pour voir un main event qui dure 30 secondes, qui dure 1 minute 20. Moi je trouve ça scandaleux. On peut dire tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, j'ai envie d'avoir du suspense, quoi. Et tout est tellement téléphoné dans cette séquence que c'est tout était. On pouvait écrire tout ça disons qu'en fait, on aurait, si on avait fait la caricature du booking de la WWE, on aurait pu écrire tout ça. D'ailleurs, on en a parlé, on a parlé de à peu près ce qui s'est passé, en disant un petit peu le en caricaturant quoi finalement ce qui va se passer, mais voilà, c'est la caricature même de ce qu'ils font, c'est-à-dire en fait ils ont condensé, ils ont, ah ouais, il faudrait que ça et ça se passe, etc., mais on va pas se faire chier à booker un match, on va faire ça sur genre 20 secondes et je trouve que c'est un truc de feignasse, voilà. Même si Goldberg il est essoufflé quand il arrive dans le ring, excusez-moi, il peut tenir 2 minutes. Si le match il avait tenu 3 minutes, ne serait-ce que 3 minutes, Jericho arrive à tel moment où Kevin Owens est à deux doigts de faire une pop up powerbomb. Jericho arrive, Goldberg en profite, fait son spear machin. Ça me va très bien. Juste même 3 minutes. Mais là, c'est genre la cloche sonne. Ah, c'est le moment du booking. Jericho, hop, Jack Spear. Non, moi ça m'emmerde.
Ouais, ça m'emmerde vraiment. Encore la fois, contre Brock Lesnar, c'était la surprise, hein, c'était un shocking moment. On s'attendait à un match disputé et ok, Goldberg nous surprend en faisant les deux seuls moves qu'il semble pouvoir faire. Là, on sait déjà, donc l'effet de le shocking effect, l'effet d'étonnement, il est plus là en fait. Et c'est super, là, c'est super dommage. Il y a le titre qui est en jeu, au moins qui varie un petit peu cette partition, qui nous fasse un truc différent. Et juste répéter la musique de Jericho, ça suffit pas à faire un truc différent. Donc là, on nous resserre le même truc et c'est blasant. Du coup, on se dit le prochain match, donc WrestleMania, Goldberg Lesnar pour le titre. J'espère qu'ils vont faire autre chose parce que et j'espère que ça va pas être juste Lesnar qui fait le contre et qui fait un suplex F5 et on termine là parce que ça va être naze.
Ah mais moi j'y crois hein. Moi je crois que ça va être exactement ça hein, parce que vu comme ils sont partis et comme on voit Goldberg essouffler en permanence, etc., moi je les vois totalement faire le booking inversé, Goldberg qui essaie de faire un spear et je sais pas, Brock qui fait un contre, kill shot pour F5, blam, et puis 1-2-3, merci, voilà.
Et le pire, c'est que
un beau main event qui dure 30 secondes.
C'est ça, et le pire, c'est que si Lesnar gagne, eh ben, il y aura un rematch, Goldberg-Lesnar, donc c'est chiant.
J'sais pas,
dans tous les cas, moi, le fait que Goldberg ait la ceinture, ce qui me pose plus problème, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la ceinture, c'est Goldberg ou Lesnar qui va l'avoir dans les prochains mois, et on sait que c'est des part-timers qui sont là que pour un certain temps, on sait que Goldberg est très limité dans le ring, on l'a jamais vu rien faire à part inspirer un jackhammer. Lesnar, quand il a eu le titre, avant qu'il se fasse cacher la gueule par Rollins, à WrestleMania il y a un an et demi, c'était pas sensation plus, donc du coup je suis pas excité quoi, hein. Je me dis que ce qu'il va y avoir autour du titre dans les prochains mois va pas être génial et voilà, c'est ça qui me dérange. Et le fait aussi que même s'il y a la hype de Goldberg, ben je suis un peu d'accord avec Owen, sa promo du Raw d'avant Fastlane, moi la hype de Goldberg je n'y crois pas, même si c'est une méga star, que c'est une légende, ok, et qu'il ait un statut particulier, d'accord, mais ce qu'il nous montre depuis qu'il est revenu, bah ça ne suffit pas à être genre ah super, je vais voir un spear, un jackhammer et je vais être content. Non, j'ai envie de voir un minimum de show, donc
ouais. Et même comme je disais, c'est pas, je pense pas qu'on demande à Goldberg, on lui demande pas de faire un match de 20 minutes hein.
Non,
mais juste un truc de 5 minutes avec un échange, et puis même s'il fait un squash, c'est même plus des squash là. Enfin, je veux dire, c'est les matchs durent moins longtemps qu'un truc de jobber, de genre Nia Jax quand il réduisait des jobbers ou de Strowman quand il réduisait des jobbers.
C'est
là, c'est même pas le temps d'une page publicitaire quoi. Donc
voilà.
Donc voilà, c'est moi ça me. Franchement, c'est le truc qui à chaque fois, qui m'avait déprimé aussi à. J'allais dire SummerSlam. C'était où Goldberg Lesnar,
c'est
c'était
Rumble, hein. Non, c'est Rumble. Non, c'est SummerSlam, non, ou au Series, c'est la Series.
Ouais, enfin bref, le premier c'est pareil, ça m'avait déprimé à la fin, mais bon, à la limite ça se justifie par voilà, le retour de Goldberg, etc., on replace les choses, c'est un dingue et tout, mais là voilà, ça devient son gimmick et moi ça me blase. Et par contre, pour Lesnar, s'il devient champion, qui sait s'ils arrivent à faire un bon booking et à le mettre avec Strowman. Bon. pourquoi pas. Ouais. Mais j'y crois pas vraiment parce que je les vois pas faire confiance à Strowman pour le titre suprême. On va passer au mot de la fin. Un top, un flop, une note. Vas-y, Amiral.
Le top, eh ben c'est voilà le show stealer de la soirée qu'on attendait pas, qu'on n'avait pas vu venir. Neville contre Gallagher. Voilà, c'est pas que c'était le match du siècle, mais par rapport au pay-per-view, bah ça reste effectivement vu la surprise que ça a été ce match, vraiment très très cool. Donc c'est, je pensais pas dire ça, mais ok, le match des cruisers a été pour moi le bon moment de la soirée. Le flop, c'est voilà la streak de Charlotte qui s'arrête. Tu construis pas un record comme ça, inégalé, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, pour le briser à Fastlane dans un match d'un pay-per-view aussi mauvais que celui-ci, qu'on va oublier. On va l'oublier dans deux mois, on n'aura plus oublié Fastlane. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment très dommage par rapport à ce qu'elle a construit avec Charlotte. Et la note, franchement, je vais mettre 1,5 quoi, pour un pay-per-view, parce que il y avait énormément de matchs qui étaient des matchs de weekly. Ouais. Voilà, donc vraiment très décevant.
Moi mon top ça va être aussi les cruisers, hein, je vois que ça. C'était un match étonnamment bon. J'avoue que je regardais un peu avec inattention au début et au bout de deux minutes en fait je suis rentré dedans et j'ai trouvé une magie qu'on voit jamais quasiment qu'on voit jamais en fait dans les matchs de cruiser. Une belle construction, des moments violents, des moments spectaculaires, vraiment un très bon match. Et j'espère qu'ils vont leur laisser de la place à Raw au micro et que qu'on ait un petit peu d'échange et que on arrête de nous faire des séquences et c'est genre et bah tu sais quoi, à 205 Live demain, et bah je te parlerai. Et je fais, non, on n'a pas envie de regarder 205 Live, s'il te plaît. Pitié. Et le flop. Alors j'en ai une caisse des flops, mais alors là, je vais mettre Roman Reigns, qui gagne clean contre Strowman, moi ça m'emmerde. J'aurais aimé qu'on mette un peu de nuance là-dessus. C'est pas, je demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, je demande pas à ce que Strowman gagne, c'était évident que Reigns allait gagner. Mais mettez, je sais pas, construisez ça de façon plus maligne. Ma note, moi, c'est pas paru, je vais mettre 1. je vais mettre 1. Parce que finalement le seul match qui était bon pour moi que j'ai apprécié c'était le match des cruisers. Vraiment le reste, bon dans mon descriptif j'ai dit match moyen etc, mais c'est même pas genre c'est des matchs moyens, mais j'irais pas jusqu'à je sais pas comment dire. C'est des matchs d'euro et des matchs d'euro, on réfléchit pas autant dessus, tu vois. Ouais. On n'est pas en train de se dire, genre, oui.
Ils étaient pas longs, en plus, c'est ça, quoi. Parce qu'il y a eu énormément de matchs, avec les deux matchs qu'ils ont rajoutés. Rusev Cesaro et le Big Show contre, enfin, Rusev et Zingerman Cesaro. Je sais pas combien il y a eu de matchs dans la soirée, mais il y a eu un paquet.
Mais l'enterrement de Rusev, deuxième flop. Hein. Dans le top 3 des flops. Mais donc, oui. Sûrement un des pires pay-per-view que j'ai vu depuis très très longtemps. Ça a gueulé beaucoup sur Twitter. D'ailleurs sur Twitter, vous pouvez nous retrouver. Eh oui, @ketchupcdc, @ketchupcdc. Donc voilà, on tweet de temps en temps des conneries et puis dès qu'on peut, on live tweet des shows de la VVE quand on est en vacances. Parce que bon, entre dimanche et lundi, de 2h à 5h du matin, c'est difficile d'être disponible. On a aussi un Facebook, donc facebook.com/ketchupcdc. Et bien sûr, nos podcasts qui se situent sur iTunes, sur PodCloud et sur YouTube, bien entendu. Donc voilà, vous allez retrouver quasiment au même moment que cette vidéo notre review de Monday Night Raw de cette semaine. Donc voilà, on est en retard pour les deux, on est désolé. Et bien sûr, le cash-up SmackDown avec nos ennemis mortels, Giscal et IRM, qui ont apprécié le pay-per-view. Donc voilà.
Mais ils ne sont pas objectifs. Ils ne sont pas objectifs.
Chacun sa croix.
Ouais.
On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie l'amiral.
À plaisir, malgré le pay-per-view nul. À bientôt.
Ouais, on espère mieux à WrestleMania. Et on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Salut.
Salut.